Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why, this is why,
this is why I'm hot. Relaxez-vous, vous êtes sur France Culture, vous allez bien dormir ce soir grâce à Soft Power.
Ça marche pas du tout avec votre voix, Frédéric Martel, en fait.
On pourrait, relaxez-vous. Soft Power, on parle du sommeil et de ce que le numérique fait au sommeil ce soir dans Soft Power en direct jusqu'à 20h30. Dans le magazine de France Culture consacré aux industries créatives et au numérique, Soft Power, on parle donc du sommeil, ce que le numérique fait au sommeil, sujet de cette émission. Le numérique est-il un drame ou un atout pour le sommeil? Ce soir, on parle des effets dévastateurs que les smartphones ou les ordinateurs ont sur le sommeil et notamment sur la vie des adolescents qui, bien souvent, chattent durant la nuit, se fixent des rendez-vous même, parfois au milieu de la nuit, ou sont réveillés constamment par des notifications. On parlera aussi de la lumière bleue, de la mélatonine, ainsi que des effets psychologiques et parfois psychiatriques, des addictions au numérique et de la connexion ininterrompue, sans même parler des jeux vidéo et des conséquences que toutes ces évolutions ont sur le sommeil. Et puis peut-être plus positivement, on va aussi comparer, mettre au banc d'essai les applications mobiles et autres montres ou bandeaux connectés qui permettent de surveiller son sommeil, de l'améliorer ou qui vous aident, comme le podcast Sleep With Me par exemple, à vous endormir. Sens des gadgets ou des outils efficaces, on parle de tout cela ce soir, alors qu'on vient tous d'avancer nos montres d'une heure avec deux médecins, le docteur Sylvie Royan-Parola, médecin psychiatre et spécialiste du sommeil. Bonsoir madame.
Bonsoir monsieur.
Et puis Damien Mascret, également médecin, spécialiste santé du Figaro, qui s'occupe notamment des pages santé du Figaro. C'est le lundi, c'est ça, Damien?
C'est ça. Tous les lundis. Du lundi.
Damien Mascret. Ce que le numérique fait au sommeil, tel est le sujet ce soir de Soft Power. En début d'émission, dans l'actualité de la semaine, on évoquera la bataille de la francophonie, bataille déclarée cette semaine par le président Emmanuel Macron. Et nous serons avec Bernard Cerchiglini pour en discuter. On parlera également des 35 ans de la Villette. En seconde partie d'émission, l'invité innovation ce soir avec vous, Zoé Sfez.
C'est Jules Lavie, pardon, que vous connaissez peut-être, chers auditeurs, car il a longtemps officié sur une antenne voisine, cousine France Info, et qui lance le premier numéro d'un hebdo-papier intitulé « Vraiment ». Le premier numéro est en kiosque, il est consacré à la messagerie WhatsApp, c'est l'une des plus grosses enquêtes de ce premier numéro. Alors, pourquoi lancer un hebdo-papier alors qu'on le sait, hebdo? Autre hebdo lancé par des gens qui connaissaient bien ce support, à savoir Michel de Saint-Exupéry et toute l'équipe de 21, on le sait maintenant, ne paraîtra plus. On en parlera avec lui. Est-ce que le papier et l'hebdo papier a toujours un avenir?
20h10, le numérique et politique. Le débat de ce soir sera consacré à la fiscalité des GAFA. Comment peut-on faire payer des impôts à Google, Apple, Facebook et Amazon? Et c'est ce que propose justement de faire le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. On en débat ce soir avec Jean-François Césarini, député La République En Marche, député du Vaucluse, et Séverin Naudet, ancien conseiller numérique à Matignon. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power. Cette émission est réalisée ce soir par Milena Ellig, avec en régie Anthony Thomasson. Elle a été préparée par David Lavaux, avec pour les réseaux sociaux Pierre Ledamani, car vous pouvez aussi suivre cette émission sur les réseaux sociaux, Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist Soft Power sur Spotify, ainsi que sur Instagram, Medium, Facebook, LinkedIn, en podcast, ainsi que sur France Culture jusqu'à 20h30, bien sûr. Dormez bien. L'actualité, comme chaque semaine, pour commencer cette émission, et nous parlons, en ouverture de Soft Power, de la semaine de la francophonie qui se termine aujourd'hui dimanche et qui a été l'occasion de nombreuses manifestations culturelles ou linguistiques et d'annonces. Mardi, le président de la République, Emmanuel Macron, a présenté les grands axes de sa politique pour promouvoir la langue française et le plurilinguisme. Le président, qui s'exprimait devant les membres de l'Académie française et devant des jeunes francophones du monde entier, a fait 33 propositions. On écoute un extrait de son discours.
Ce qu'on appelle francophonie aujourd'hui, ce n'est pas cet espace incertain à la périphérie de la France, laquelle en serait le centre. C'est la langue française, elle-même, qui est devenue le centre de toutes les nations et de tous les peuples, où elle a fait souche dans sa variété étourdissante. C'est cela la francophonie. Ce continent humain qui admet comme constitution une grammaire partagée, comme article de loi une syntaxe, comme code civil un vocabulaire.
À l'instant, le président Emmanuel Macron dans son discours à l'Institut de France ce mardi. Le président entend défendre une approche moderne de la francophonie, non pas recroquevillée, mais ouverte au monde. Il n'a d'ailleurs de cesse de citer, par exemple, l'écrivain algérien Kamel Daoud, le rappeur MHD, la chanteuse malienne Rokia Traoré, ou encore la prix Goncourt 2016, Leïla Slimani, dont il a fait sa représentante spéciale pour la francophonie. Pour Emmanuel Macron, plus question d'être, je cite, un défenseur grincheux du français, mais d'accompagner notre langue dans la mondialisation. Bien parler anglais, par exemple, pour le président Macron, et même employer des mots anglais, ce qu'il fait lui-même très souvent, comme ses camarades de La République En Marche, ce qu'a montré une étude du Monde cette semaine, n'est pas incompatible pour lui avec la défense du français. Retour donc sur ses propositions avec le linguiste Bernard Cerchiglini, professeur de linguistique et qui est en direct avec nous par téléphone. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Proposition phare du président Macron, faire passer la langue française, qui serait aujourd'hui la cinquième la plus parlée au monde, à la troisième place. Effet d'annonce ou, Bernard Cerchiglini, vrai projet politique?
Oh, c'est un vrai projet politique et surtout c'est un changement de perspective. Emmanuel Macron est venu, non sans paradoxe, à l'Académie française enterrer le rivalisme. Enfin, enterrer rivalol, ce mélange de lassant, d'arrogance, d'essentialisme, de volonté de mettre la France et le français de France en valeur. Il a rappelé que il y a la francophonie, c'est un fait, et que la France fait partie de la francophonie. Et tout se déduit. Si l'on comprend cela, on peut avoir une politique qui mobilise tout le monde, qui mobilise aussi tous les francophones, pour que le français soit davantage parlé, pourquoi pas remonter quelques places. Nous ne faisons pas de palmarès, bien sûr.
Donc il s'agit pour lui, c'est d'ailleurs le sens aussi de la nomination de l'écrivaine Leïla Slimani comme sa représentante personnelle pour la francophonie. Il s'agit donc d'une francophonie renouvelée, repensée en insistant sur les voix singulières aux multiples accents de la diversité francophone. Et il dit ça d'ailleurs devant celle qui dit être le secrétaire perpétuel de l'Académie française, puisqu'elle refuse de dire là alors que c'est une femme. Et comme d'ailleurs beaucoup d'académiciens qui n'ont pas forcément ni pris le sens de la modernisation de la langue, ni celui de la diversité.
J'ai parlé de paradoxe plus haut. Hein. Il est évident que Emmanuel Macron s'exprimait dans une institution qui n'est pas tout à fait progressiste en matière de langue ou qui n'était conservatrice. Je crois que les choses bougent. En tous les cas, prendre Leïla Slimani comme représentant personnel et montre que nous défendons le français, langue mondiale, parlée par tous et appartenant à tous. Vous savez, je crois que le président a bien compris que les Français sont maintenant minoritaires en francophonie. Et c'est une bonne chose. Ils ne peuvent pas donner une norme au monde entier. Ils ne peuvent pas décider pour les autres. Le français est vivace et vivant à Bruxelles, à Dakar, à Montréal. Il appartient à tout le monde. Et tout le discours du président était une réflexion sur ce qu'est la situation réelle actuelle du français sur les cinq continents.
Alors le français, c'est aussi une langue parlée sur Internet. La question préoccupe tout le monde. Et le président a insisté sur ce thème, proposant notamment de renforcer le rôle des médias français. Il cite TV5 Monde et surtout France Média Monde, qui comprend France 24, RFI et RMC Doualia. La proposition était bien accueillie, évidemment, même si les syndicats ou d'autres responsables font remarquer qu'elle était un peu contradictoire avec, par exemple, le plafonnement des budgets de l'audiovisuel public ou avec la tentative de fusion de l'ensemble des médias publics, qui est un peu une usine à gaz qui risque de faire perdre du temps et de paralyser l'audiovisuel public. Comment rendre Internet, selon vous, plus francophone, Bernard Cerchiglini?
La politique ne va pas sans contradiction, vous avez signalé une. Mais ce qu'il importe de dire, c'est que les médias français et francophones se portent bien, ils sont écoutés et regardés, et surtout, l'Internet est un outil merveilleux pour les francophones qui ont su s'en saisir. D'abord, le français français a toujours été une langue liée à la technologie. Elle a été la première langue mise en écrit dès 842. C'est un progrès technologique, les encyclopédies, etc. Et l'Internet, d'autre part, c'est un outil d'enseignement extraordinaire. J'ai eu le bonheur pendant 8 ans de diriger l'Agence universitaire de la francophonie qui aide les universités du Sud à la francophone à se développer. Nous avons fait le pari depuis longtemps du numérique, campus numérique, cours en ligne, outils. L'Afrique s'est saisie du numérique et c'est un progrès considérable. Et je peux vous dire, pour avoir participé à des discussions internationales, les francophones ne sont pas du tout en retard en ce qui concerne le numérique éducatif. Donc il n'y a pas seulement la place du français sur Internet, il y a cet outil merveilleux dont nous sommes saisis. Et croyez-moi, Internet, c'est aussi l'écrit. On n'a jamais autant écrit en français depuis qu'il s'est séparé du latin.
Alors Bernard Cerchiglini, pour terminer, je rappelle que vous êtes professeur de linguistique, vous parlez de l'écrit à l'instant, le président annonçait vouloir doubler le nombre d'élèves dans les lycées français à l'étranger. Là encore, belle proposition que tout le monde peut saluer, mais peut-être vœu pieux d'une certaine manière, puisque, et d'ailleurs c'est ce que lui ont répondu certains contradicteurs, le système de ce qu'on appelle l'AEFE, hein, qui est l'agence qui pilote, parfois d'ailleurs pas toujours très bien, les 500 établissements, écoles et lycées français, semble à bout de souffle. Le soft power du ministère des Affaires étrangères est victime de coupes claires, notamment dans les réseaux culturels, qui a des problèmes financiers, des débats sur les alliances françaises, des frais de scolarité aussi, des écoles. Est-ce que la francophonie passe, selon vous, d'abord et avant tout par les écoles et les lycées français ?
Alors, l'agence de l'enseignement fait ce qu'elle peut avec son budget, en effet, qui est réduit. Encore une autre contradiction, mais le président est un philosophe, donc il saura lever les contradictions. Ce que je veux dire, c'est que le discours a commencé par apprendre, apprendre, apprendre. Il rappelait que la francophonie, c'est d'abord la langue française. Ce n'est pas un truisme. On a voulu faire de la francophonie une sorte de Nations Unies bis, qui marche plus ou moins. C'est la langue, et il faut l'enseigner à l'extérieur. Les lycées français sont excellents et marchent bien, malgré leur situation, ils marchent fort bien, mais en rapport aussi avec les efforts que font les Suisses, les Belges, les Québécois, les Canadiens, mais l'enseigner aussi en France. Et peut-être ce qu'il manquait au discours du président, qui a beaucoup parlé de l'école, il manquait ce que j'appellerais la dimension peut-être sociale, c'est-à-dire que il faut parler aussi de la maîtrise de la langue nécessaire à tous. Enseignement du français aux migrants, lutte contre l'illettrisme, maîtrise professionnelle de la langue, c'est aussi un domaine important. La maîtrise de la langue est plus que jamais nécessaire pour toutes les professions en France et pour tout le monde. C'est donc une vaste politique d'apprentissage de la langue qui se dessine. Il y a une francophonie à développer également en France.
Merci infiniment Bernard Cerchiglini. Je rappelle que vous êtes professeur de linguistique. Le président Macron a fait d'autres annonces concernant notamment les migrants. Et puis parallèlement, la ministre de la Culture a annoncé la nomination de Xavier Nortz pour une mission sur la francophonie justement en France, la francophonie d'accueil et notamment celle qui concerne l'accueil des artistes étrangers.
Soft Power, reportage. Zoé Suez.
Et dans l'actualité aussi, ce week-end, nous sommes dimanche, hier et aujourd'hui, et en fait jusqu'à la fin de la semaine prochaine, la Villette, le parc de la Villette fête ses 35 ans. 35 ans que ce parc existe, ce parc qui est aujourd'hui dirigé d'une main de maître par Didier Fusillé, qu'on a connu aux manettes de la Maison de la Culture de Créteil, mais aussi de Lille, qui a été un long Lillois. 35 ans de Villette, beaucoup de festivités, mais surtout un grand programme de restauration de cet immense parc, 55 hectares, 26 folies rouges qui ont été restaurées, le lancement de plusieurs innovations à la Villette, qui sera, il faut le rappeler, l'un des sites des Jeux Olympiques prochains. J'ai posé la question, j'ai demandé à Didier Fusillé de nous résumer un peu peut-être quelle était l'identité de ce projet quand il est né il y a 35 ans.
Il y a 35 ans, c'était les premiers grands travaux mitterrandiens. Et il y a eu cette idée de faire, Jack Lang en parlait très très bien encore hier, quelque chose qui n'existait pas, qui était indéfini. Et d'ailleurs, le programme architectural était limité à une phrase, « Fais ce que voudras » de Rabelais. Quand même pas mal, parce qu'aujourd'hui, quand on voit les cahiers des charges d'un truc pareil, c'est 5 dossiers gigantesques. Mais réellement, il avait cette idée d'une, non pas d'une fantaisie, mais d'un endroit à inventer et qui se réinventerait en permanence en fonction de son époque. Et c'est de là qu'est né cet endroit qui est quand même le plus grand parc de Paris, même le plus grand parc européen à l'intérieur d'une capitale. Il y a ce mélange absolu à la fois des générations, des classes sociales, que nous n'avons même pas protégé, parce que c'est comme ça. Je crois que c'est dans l'ADN de la Villette d'être toujours en état de curiosité, parce que c'est aussi un parc qui a cette spécificité d'être ouvert toute la nuit, jour et nuit, tous les jours.
Quand vous êtes arrivé il y a 2 ans, qu'est-ce que c'était le défi, s'il y en avait un, et notamment toute la programmation qui est liée aux enfants, parce que la Villette a toujours été très fréquentée par des familles.
Mais c'était déjà de protéger le site. Vous savez, tous les sites, quels qu'ils soient, sont menacés. Alors nous ne sommes pas un parc encore historique, mais on peut s'imaginer que dans 200 ans, on va venir voir, comme on va voir Versailles aujourd'hui, un parc architectural. Il ne faut pas oublier qu'il y a là Bernard Tchoumi, mais aussi Christian de Porzamparc, Fan Silber, Jean Nouvel, enfin la liste est immense, des architectes qui ont construit. Donc c'est vraiment un patrimoine du XXe siècle et tourné vers le XXIe d'une façon assez étonnante. Aujourd'hui, on ne créerait plus un parc comme ça. Les 26 folies rouges de Tchoumi, totalement inutile sur le truc, mais qui crée cette séquence de points, de surface, de lignes, donc un propos totalement intellectuel. Et effectivement, quand on parle des enfants, ils ont leur palais qui s'appelle le Little Villette. Nous avons accueilli quand même l'an dernier 190 000 enfants et qui sont dans une sorte d'endroit non défini où il y a des livres, où il y a des matrices aussi électroniques, mais surtout aussi du cirque, du chant choral. Donc notre envie avait déjà été de créer une grande ligne pour les enfants, avec aussi des makers, avec une folie numérique. Nous avons restauré toutes les folies de Tchoumi, nous avons rééclairé. Nous avons par exemple réhabilité des jardins des enfants, mais comme sur les plans des années 90. Or, ça n'existe plus du tout. D'ailleurs, même les paysagistes ont eu du mal à retrouver des matériaux, par exemple la piscine en mousse, qui était un truc délirant des années 90, ça n'existe plus nulle part. Donc nous, on en a refait une. Donc on a refait un jardin pour enfants années 90.
Il est un autre projet qui est lancé dans la lignée de ces 35 ans de la Villette, celui de Microfolie.
Les Microfolies sont des petites folies avec à l'intérieur des concentrés de la Villette, mais aussi du Louvre, du Château de Versailles, du Musée Picasso, de l'Opéra Bassi, du Festival d'Avignon, du Musée des Arts Premiers, enfin 12 grands établissements publics avec des collections numériques. Et nous allons dans des médiathèques, ça peut être une poste, des bâtiments municipaux, avec toutes ces collections, avec aussi un Fab Lab, avec des films en réalité virtuelle, avec une petite bibliothèque, avec un café évidemment, sinon il ne se passe rien. Et tout ça c'est tenu dans des quartiers, dans des villes où il n'y a pas forcément un musée à côté, un cinéma. Et donc là, vous avez une sorte de concentré de micro-maison de la culture. Et nous avons lancé ça il y a un an à Sevran. C'est un énorme succès. Après les Mureaux, Avignon, Lille, Izmir en Turquie, Rangoon en Birmanie, parce qu'en plus, ça touche à l'étranger. Et c'est un énorme succès de populaire. Et là, la ministre qui porte beaucoup ce projet devra en annoncer un grand nombre à venir dans toute la France.
Justement, vous qui connaissez bien la maison de la culture de Malraux, au sens où Malraux l'a pensée, vous pensez que c'est ça aussi un peu son futur, à cette maison de la culture ?
Mais disons que c'est, vous savez, on s'inscrit toujours dans l'histoire en fait. Je pense pas qu'on réinvente le monde toutes les 10 minutes. On s'inscrit dans les grands mouvements qui ont eu leur réalité, leur puissance, et on vient se greffer dessus. Qui ment peut-être d'ailleurs à partir de, comme vous le disiez, de ces grandes maisons de la culture, que ce soit Amiens, Grenoble, enfin qui ont été les maisons de la culture des années 60, qu'elles deviennent des têtes de réseau pour développer ces nouveaux outils qui vont, je crois, vraiment émerveiller, parce que vous savez, c'est quand même, sont des merveilles de la nation. Je crois que ça appartient à tous et que nous devons de les montrer.
Voilà, Didier Fusillé, président du parc de la Villette. Le parc de la Villette où il y a encore, en ce moment même, un grand bal modern style ouvert à tous. Si vous avez envie d'y jeter un œil avant d'aller vous coucher, c'est encore possible.
France Culture, 19h19, ne vous endormez pas. Dans un instant, émission consacrée ce soir au sommeil, ce que le numérique fait au sommeil. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine, un mot sur Blurry Line contre Got to Give It Up. Cette semaine, la justice américaine a tranché dans l'affaire l'affaire qui opposait depuis 2015 les ayants droit de Marvin Gaye d'une part et le duo Robin Thicke et Pharrell Williams. Ces derniers étaient accusés d'avoir plagié le titre Got to Give It Up de Marvin Gaye sur leur titre à eux, Blurred Lines, sorti en 2013. Une décision de justice était très attendue car elle allait nécessairement faire jurisprudence et pouvait être en train de changer notamment l'idée et être un frein à la création. En appel, les juges américains viennent donc cette semaine de condamner Robin Thicke et Pharrell Williams à verser 5,3 millions de dollars aux héritiers de Marvin Gaye. L'article du New York Times qui décrypte ce jugement se conclut par la phrase suivante « Si un artiste veut s'inspirer du travail d'un autre, il pourrait au moins en demander la permission. » On vous laisse écouter un mix des deux morceaux que nous avons enchaînés, essayer de percevoir la différence. Chacun jugera si c'est concluant ou pas. En tout cas, le procès en appel a été perdu pour les jeunes musiciens et gagné par les ayants droit de Marvin Gaye. France Culture, 19h22.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Ce qu'Internet fait au numérique, c'est le sujet de l'émission de ce soir.
Ce que le sommeil
fait au numérique, ce que le numérique fait au sommeil, voilà. On s'endort,
on est fatigué.
Trois séquences dans cette émission Soft Power consacrée aux effets du sommeil sur le numérique et du numérique sur le sommeil. On va d'abord s'intéresser aux changements que le numérique produit sur le sommeil, notamment en termes de connexion perpétuelle, d'addiction et de lumière bleue. Les changements de comportement sont significatifs et le sommeil évolue pour le meilleur et pour le pire du fait des technologies. Ensuite, on s'intéressera plus particulièrement au comportement des jeunes et de ce qu'on appelle les millennials, ou comment les adolescents sont la première génération dont le sommeil est très fortement perturbé par le numérique, prélude peut-être à des changements de comportement plus durables. Enfin, de manière peut-être plus positive, on s'intéressera aux applications, aux montres connectées et à tous les outils innombrables qui nous permettent de mieux comprendre notre sommeil et de le contrôler. Au cours de cette émission, on s'intéressera aussi aux podcasts qui vous aident à vous endormir, aux montres connectées et autres bandeaux connectés, notamment celui lancé par une start-up sous le nom de Dream. Et en direct, pour faire le point sur les effets du numérique sur le sommeil, je reçois ce soir deux médecins. Rebonsoir madame, vous êtes Dr Sylvie Royan-Parola, médecin psychiatre, spécialiste du sommeil.
Bonsoir.
Et Damien Dascré, médecin, rédacteur et responsable du Figaro Santé. Alors commençons, docteur, si vous le voulez bien, par un état des lieux du sommeil aujourd'hui. Le sommeil qui est perturbé, non seulement par le changement d'heure, comme nous l'avons tous fait cette nuit en rajoutant une heure à toutes nos montres, mais aussi, Damien Dascré, par le numérique.
Oui, parce que le numérique, c'est quelque chose de très tentant, c'est quelque chose de très facile et c'est surtout quelque chose qui travaille beaucoup sur le circuit de récompense qu'on a dans le cerveau. Comment nous faire plaisir? Comment nous tenter, nous solliciter? Vous avez finalement la boîte à bonbons sous la main, sous les yeux, en permanence. Et c'est une boîte magique parce qu'elle se vide jamais. Il y a toujours du nouveau, il y a toujours de l'excitant, il se passe toujours quelque chose au bout de vos doigts. Donc évidemment, le numérique, c'est, la tentatrice suprême. Et donc, notre attention, et car c'est un problème d'attention essentiellement, va être captée grâce à bien des services marketing qui sont très très performants et dont on pourrait peut-être d'ailleurs apprendre pour des choses plus vertueuses comme l'éducation par exemple. Parce que tout ce qui est développé pour nous pousser à utiliser par exemple des applications, pourrait peut-être aussi être utilisé de façon plus efficiente dans l'enseignement. Donc ne nous détournons pas, soyons lucides, il y a du bon à prendre. Dans le mauvais.
Sylvie Royan-Parola.
C'est intéressant parce qu'effectivement, on voit apparaître des technologies qui nous envahissent de plus en plus, non seulement dans la journée, mais aussi la nuit. Et il y a quelque chose qui est tout à fait fondamental, c'est que le sommeil est incompatible avec toute autre activité. Quand on dort, on ne peut que dormir. En tout cas, on doit nécessairement se mettre dans une espèce de niche coupée du monde.
De bulle, oui.
De bulle, pour arriver à s'endormir. Et on voit des comportements qui apparaissent maintenant qui, non seulement vont venir grignoter le coucher, mais aussi perturber le déroulement de la nuit. Donc, évidemment, on n'est plus du tout dans le schéma prévu initialement.
Vous parleriez de nouvelles versions d'insomnie?
Enfin, quelque part, le fait de rester connecté, donc de rester en alerte, est totalement incompatible avec le sommeil. C'est deux choses antinomiques.
Comment ça marche, le sommeil, pour partir des bases? Et notamment, que vient faire là-dedans la lumière, notamment la lumière bleue ou pas, et ce qu'on appelle la mélatonine?
Le sommeil, c'est vraiment un rythme qui fait que chez l'homme, on est des animaux nocturnes, hein, donc on va être dans un schéma où finalement, dans la journée, on va accumuler des substances de sommeil qui vont faire que on va ouvrir les portes du sommeil au moment où on va aller se coucher. Et il y a un lien très très fort avec la lumière, qui a un rôle régulateur, qui, bien sûr, avec un rythme de 24 heures, puisqu'elle est liée à la rotation de la Terre sur elle-même et qui tourne elle-même autour du Soleil. Donc cette rythmicité de 24 heures va venir, par des voies visuelles d'ailleurs, donner des ordres à notre horloge interne qui est au niveau de l'hypothalamus, pour dire, bah, ça y est, là maintenant, il est temps d'ouvrir les portes du sommeil et d'y aller. Mais le sommeil a aussi cette caractéristique, c'est que il est exclusif, c'est-à-dire on peut pas dormir et faire autre chose. On peut dormir et rêver, ce qui est de l'activité du cerveau, mais on peut pas être ouvert au monde extérieur. Et c'est là qu'il y a un vrai souci, parce qu'effectivement, on voit de plus en plus dans notre vie moderne empiéter sur ce temps du sommeil. Et qui pose question, est-ce que le sommeil va rester monophasique avec un seul bout entre 23h et 7h, ou est-ce qu'on va arriver à des formes de sommeil polyphasique? Il y a peut-être
plus
des
morcelé,
adaptations.
Plus morcelé, vous voulez dire?
C'est ça.
Donc, il y a de plus en plus d'adeptes d'ailleurs, parce que, et beaucoup de sites le conseillent dans une vie...
Y compris avec les siestes, les micro-siestes.
Moi, j'ai une appli, j'ai essayé à un moment donné, quand je faisais de la matinale, j'ai eu une appli qui effectivement fonctionne très bien et qui est téléchargée par beaucoup de gens avec cette tentation suprême, vous l'avez dit, c'est le dernier moment, rien d'autre. C'était dans un monde très productif de se dire, bon, bah, peut-être qu'en polyphasique, je pourrais faire plus de choses, et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'applis qui aidaient à ça.
Damien Mascret.
Oui, il y a aussi un énorme piège, c'est que vous avez en principe dans votre cerveau ce qu'on appelle un système pré-attentionnel, c'est-à-dire qu'en permanence vous êtes bombardé d'informations, hein, par vos oreilles, votre vue, bref, plein d'informations, et puis votre cerveau fait un peu le tri, il dit tiens, là, ça, c'est pas la peine d'aller réveiller la conscience supérieure, donc je laisse ça de côté. Et ça arrive aussi dans le sommeil, au bout de deux ou trois nuits à la campagne avec le clocher qui sonne, ça ne va plus vous réveiller.
Et le hibou
Et ben voilà, le hibou ne vous réveillera plus parce que votre cerveau, ah ok, il y a ça qui sonne, et ça arrive aussi chez les chats, hein. Il y a eu des études chez les animaux, donc c'est vrai que ça ne réveille plus. Donc le système pré-attentionnel est très performant, sauf que pour le numérique, ce n'est pas du tout le cas. Parce qu'au moment où, alors si les ados notamment, mais ça arrive aussi aux adultes, au moment où la notification arrive, où l'écran s'allume, ou pire, la petite note...
On ne peut pas s'y habituer,
vous ne savez pas. Bah, vous ne savez pas si c'est intéressant
ou
important.
Donc vous allez aller.
Donc le seul moyen de le faire, c'est de faire le travail du système pré-attentionnel, sauf que vous vous réveillez.
Quelles sont les conséquences du manque de sommeil sur la santé?
Alors, il faudrait plutôt demander au docteur Aurélien Parola, mais il y en a énormément, que ce soit sur l'hypertension, sur la régulation de l'insuline, sur les risques de diabète. Maintenant, on pense sur le cancer. La maladie d'Alzheimer, on a vu que les mécanismes de nettoyage du cerveau se font la nuit. On commence maintenant à comprendre exactement ce qui se passe, comment les vannes s'ouvrent dans le cerveau pour nettoyer entre les cellules. Et donc l'importance du sommeil aussi sur les maladies neurodégénératives. Donc il y a énormément de vertus au cerveau. Et d'ailleurs, on peut regretter que, eh bien, on a dit bouger, hein, on a dit manger correctement, eh bien, il manquait dormir. Et ça, les associations, mais je pense que le réseau Morphée en parle aussi, il faut vraiment dormir. C'est un des triptyque pour une bonne santé.
Sylvie Royan-Parola.
Tout à fait. Le sommeil, c'est vraiment ce qui nous permet de nous régénérer, de traiter toute l'information, de stocker.
Reposer tout ce qui le est, cerveau, se ressourcer.
Voilà. Oui, mais c'est le cerveau, il se repose pas hein, en réalité quand on dort, contrairement à ce qu'on pense. Non seulement il y a cette activité de nettoyage qui se fait au cours du cerveau et qu'on vient de découvrir, et c'est vraiment, il y a les femmes de ménage qui passent la nuit pour tout nettoyer et remettre les neurones en état. Mais il y a aussi tout ce qui va être le stockage, le traitement de l'information qui va faire qu'on va trier dans toute cette foule de données qu'on va avoir eues dans la journée, ce qu'on va garder et ce qu'on va jeter. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et puis, il y a toute la reconstitution cellulaire, reconstitution hormonale, reconstitution de toute l'énergie, en fait, quelque sorte, qu'on va faire pendant le sommeil. Donc c'est absolument primordial et on n'a pas l'équivalent. C'est-à-dire que on peut pas. L'alimentation peut permettre, les aliments peuvent permettre de récupérer un peu d'énergie, ce qui explique qu'on peut être en privation de sommeil. Il y a des expériences de privation de sommeil qui ont été faites assez longues, même le record, c'est de 11 jours avec Randy Garner. Mais
dans les années 60.
Ça, c'était dans les années 60. Plus personne ne le referait. Et surtout, ce serait médicalement totalement pas conseillé. Ouais. Donc,
est-ce que vous diriez que le sommeil, c'est l'un des plus gros soucis de santé pour les années à venir?
Je ne suis pas sûr que ce soit qu'un souci de santé, c'est aussi une richesse énorme. C'est-à-dire que
Non, mais les problèmes de sommeil, je veux dire, les maladies du sommeil.
Probablement au niveau du sommeil, on est en train de découvrir des choses que nous, spécialistes, on sait, c'est que c'est vraiment tout à fait fondamental et c'est au carrefour de différents organes. Et la fonction de réparation ou de restauration, c'est totalement primordial. Alors ça ne se voit pas comme ça immédiatement, mais bien évidemment, tout ce qui se passe un peu en back-office, en arrière-plan, va être très très fondamental pour l'homme, l'homme éveillé.
Alors, si on en revient au numérique, il y a cette question de la lumière bleue. Damien Mascret, donc vous êtes médecin, journaliste santé au Figaro Santé. En quoi la lumière bleue et comment elle agit sur le sommeil et le rapport avec le numérique?
Alors, le problème de la lumière bleue, on la trouve dans tout, hein, la lumière bleue. Mais c'est vrai que la lumière bleue qu'on trouve particulièrement dans les LED, hein, par exemple, ou dans les écrans, dans les tablettes, bref, c'est quelque chose qui peut retarder la sécrétion de mélatonine. Alors, peut-être pas l'empêcher, mais en tout cas la retarder. Peut-être,
donc, la bloque, oui.
Ça peut même la bloquer. Ah, voilà. Oui, donc, si vous prenez une bonne dose de lumière bleue, ça la bloque. Or, la mélatonine, c'est ce qui vous prépare au sommeil, hein, comme la baisse de température du corps. C'est le moment d'aller dormir. Donc, si vous retardez ça, et en plus, vous rajoutez l'excitation, effectivement, de ce que vous regardez sur vos écrans, eh bien, vous retardez le sommeil qui, naturellement, se serait produit, l'endormissement. Donc, c'est un énorme problème, sans même parler des problèmes rétiniens, puisqu'on sait que les lumières bleues, c'est les lumières à haute énergie. Et on sait que quand on a des lumières à haute énergie, qui en plus interagissent avec les pigments qui font la coloration dans les yeux, enfin peu importe. Mais en tout cas, le résultat, c'est que vous avez une agression de l'œil qui est très importante, surtout qu'on regarde ces écrans de près. On n'est plus comme avec le téléviseur qui était à 2 ou 3 mètres. On est très près des yeux et donc on se prend des doses très importantes dans l'œil. C'est mauvais pour l'œil.
Docteur Sylvie Aurélien Parola.
En fait, les écrans ont ce rôle tout à fait extraordinaire de simuler en fait un process d'éveil avec de la lumière proche de la lumière du soleil. Hein.
Et donc, qui ne fait qu'augmenter, puisqu'on sait que l'iPhone 10, par exemple, est deux fois plus, la stimulation lumineuse de l'iPhone 10 est deux fois plus importante que les autres iPhones. Donc ça a tendance à s'accentuer.
Tout à fait. Donc il y a ce qu'on appelle un retard de phase du sommeil. Il est décalé plus tard ou il est fractionné si c'est un éveil en cours de nuit. Et puis surtout, ce qui joue aussi, c'est le contraste de la clarté de l'écran par rapport au noir de la pièce. Et qui est, si vous êtes dans une atmosphère lumineuse ambiante, c'est moins pire. Mais bien entendu, quand on dort, en général, on est dans le noir. Et donc là, l'écran est très très significatif. Donc ça modifie complètement les rythmes. Et on voit, on a fait une étude chez des adolescents de 12 ans en moyenne. Eh bien, il y en a quand même 10% qui sont réveillés 1 à 2 heures par nuit. Hein, pour consulter leur téléphone. Alors le téléphone en plus c'est pas qu'un écran. c'est un objet communicant.
Des notifications, éventuellement des sons.
Oui, et ça met en communication avec l'autre. Donc c'est très compliqué.
On l'écoute avec un casque, avec des écouteurs.
C'est des choses fondamentales pour l'individu, c'est-à-dire ça le met en relation et ça simule une lumière qui est proche de la lumière du soleil.
Damien Mascret.
Oui, alors heureusement, il y a des progrès quand même qui sont faits. Vous avez vu, maintenant, vous avez beaucoup d'appareils qui vous proposent le mode nuit. Et effectivement, ça, c'est intéressant parce qu'ils se sont rendus compte, évidemment, du problème. Et en se mettant au mode nuit, on essaie de limiter au maximum. On a des couleurs plus chaudes. On essaie au maximum de limiter ces lumières bleues qui sont censées perturber le sommeil. Donc, on voit bien qu'il y a quand même des recherches et des progrès qui sont faits. Les industriels eux-mêmes s'en préoccupent.
France Culture, 19h35, on parle ce soir du sommeil. On parle aussi d'ailleurs de ce qu'on appelle parfois le sommeil paradoxal, REM en anglais, d'où la musique qu'on vous propose à l'instant du groupe américain REM. Seconde partie de cette émission, j'aimerais maintenant que l'on parle peut-être plus spécifiquement des adolescents et des jeunes, ce qu'on appelle parfois les millennials, ceux qui sont nés entre 1980 et 2000, ou encore des générations X, Y et surtout Z postérieures, en gros les jeunes. On sait que les jeunes sont une génération ultra connectée et que leur smartphone constitue trop souvent, très souvent, leur meilleur ami. Ils ne le quittent pas, jamais, même pas la nuit. Alors parlons peut-être des jeunes. Vous mentionniez à l'instant, docteur Sylvie Royan-Parola, le rôle notamment de ces applications et de ces smartphones la nuit. Qu'est-ce que vous avez remarqué, notamment dans l'enquête que vous citiez à l'instant, l'irrégularité du sommeil, le réveil par les notifications la nuit, etc.
Alors, il y a des choses que l'on sait, effectivement, c'est que il y a, en dehors des jours d'école, alors déjà, en période d'école, ils sont réellement en privation de sommeil. Hein, vous avez quand même 30% des jeunes qui dorment moins de 6 heures. Donc, à 12 ans, c'est très peu. Et puis, vous avez de surcroît le fait que le sommeil est tardif, donc en période scolaire. Et le week-end, là, pour le coup, il y a un switch avec un décalage
on
du style Paris-New York, où ils se couchent
tard.
Ils
sont en jet lag, quoi.
Voilà, ils se lèvent tard, moyennant quoi, le lundi et le mardi, c'est extrêmement difficile d'aller en cours. Mais ce qui a été le plus troublant, et ce qui est le plus troublant au travers de différentes études que l'on fait, c'est de voir les éveils et la connexion la nuit. Et ça, c'est un vrai souci parce que...
Ils se donnent même des rendez-vous la nuit.
Alors certains se donnent rendez-vous la nuit, où ils se retrouvent et ils discutent, ils chattent, voilà. Il y a
évidemment,
certains qui jouent la nuit.
Évidemment, comme c'est la nuit, comme les lumières sont éteintes et que ça se passe avec un téléphone sous les draps, personne ne le voit, les parents ne le savent pas.
Personne ne le sait. Et les parents étaient très très surpris dans les études qu'on a faites quand ils ont découvert les résultats en disant mais
c'est pas nos
on
enfants
pas du tout au courant quoi.
Damien Mascret.
Oui, c'est vrai que c'est un gros problème parce que obliger ou inciter ou inviter un jeune à laisser son portable en dehors de la chambre ou à sa tablette également d'ailleurs ou à la déconnecter ou la mettre en mode avion, c'est très compliqué.
Ça apparaît comme une punition, voilà, surtout dès qu'ils ont un peu grandi, quoi.
Évidemment. Et donc, ils se rendent pas compte, et de toute façon, le sommeil pour les enfants, c'est pas une priorité. Simplement, ils se disent, bon, je serai fatigué le lendemain. Ils vont peut-être s'en plaindre et se faire des promesses dans la journée, mais peu importe, ils les suivront pas la nuit qui suit. Donc, il y a vraiment cet appel à un couvre-feu digital qui a été lancé. Et je pense que c'est très important. Il faut effectivement que ça vienne des parents et de l'extérieur et que, effectivement, on soit un peu coercitif, sans doute, après avoir tenté l'explication. Parce que sinon, ça va
la
être très difficile.
La carotte et le bâton. D'abord, la carotte et puis
voilà,
le bâton.
Résistez-vous à la tentation de ne pas mettre votre téléphone en mode avion. Même.
Entre la carotte et le bâton, peut-être quelques règles que vous pourriez recommander, vous médecins, aux familles et peut-être même aux adolescents eux-mêmes. Vous avez dit tout à l'heure, donc au fond, pas d'écran ni de smartphone, peut-être dans la chambre, même pas pour charger le smartphone, parce que le charger, c'est déjà l'avoir à proximité s'il est dans la chambre. Ça serait une proposition sur laquelle vous seriez d'accord pour commencer ?
Alors, je pense qu'il y a quelque chose c'est des choses qui se construisent en famille. Vous avez des familles qui sont très permissives, d'autres qui ont un volant d'action.
Puis il faut donner, montrer l'exemple si les parents l'ont dans leur chambre.
Tout à fait. Donc, je crois que chacun doit trouver son équilibre et les familles y arrivent. Et dans l'enquête qu'on a faite sur différentes écoles à Paris, on se rend compte que il y a des différences de comportement. Mais quand les plus grands commencent à être conscients des choses, ils s'étonnent de voir les plus jeunes en cinquième ou en quatrième faire certaines choses, en disant, mais enfin, ils n'ont pas conscience de ce qui se passe. Donc, je crois qu'il y a un côté éducatif. Ensuite, il y a effectivement des limites à mettre, ce qui veut dire que les parents doivent aussi faire pareil, parce qu'on donne l'exemple. Mais idéalement, effectivement, le téléphone ne devrait pas être sur la table de nuit du jeune. C'est trop tentant.
Autre point, enlever sans doute au maximum les notifications, surtout la nuit. Donc pour ne pas donc mettre le téléphone, il y a des fonctions qui existent sur tous les téléphones. Ça s'appelle ne pas déranger. Sur l'iPhone, ça s'appelle le mode de nuit. Sur le Samsung, c'est night mode, mode de nuit également. La lune, hein, vous voyez ce petit signe.
Mais
Zoé,
on peut quand même noter, alors il y a des applis de déconnexion sur ces choses-là, on peut quand même noter que c'est très difficile d'enlever des notifications pour certaines choses et pas pour d'autres. Donc en fait, soit vous décidez de ne pas être dérangé du tout, soit vous pouvez, c'est très difficile de choisir. Or, je pense que
il y a quelques applications qui permettent, par exemple, de garder l'appel de votre mère qui est souffrante ou de votre fils.
Il faudrait peut-être, pour aider vraiment à expliquer ça et créer des... Alors, il existe quelques applications, par exemple, dont une que moi j'utilise, par exemple, parce qu'il faut quand même dire, on parle des jeunes, mais on peut aussi parler des adultes qui se battent contre eux-mêmes. C'est-à-dire que, pour vous partager une expérience tout à fait personnelle, moi je me bats pour rester en mode avion. Donc j'ai ce fameux programme qui s'appelle Cold Turkey, qui vous gèle votre téléphone sur les réseaux sociaux, qui vous gèle les réseaux sociaux sur un temps que vous avez prédéfini. Et ensuite, si... comme un drogué en manque, parce qu'on est clairement sur des phénomènes d'addiction, hein, on parlait tout à l'heure de récompense, vous avez envie d'y retourner, cette application, vous n'avez plus de maîtrise dessus. C'est pas comme le mode avion, vous ne pouvez pas l'enlever. Si vous avez défini que pendant trois quarts d'heure, vous ne pouvez plus vous intéresser à ça, ou pendant le début de la nuit, c'est ce que je fais moi en l'occurrence, vous ne pouvez plus les toucher ensuite. Mais c'est quand même quelque chose, je pense, d'important d'avoir une plus grande manœuvre, une plus grande, on va dire, une tactilité, fluidité dans la manière dont on peut gérer ces applications.
Autre proposition, docteur Sylvie Royan-Parola, docteur Damien Mascret.
Il y a des familles qui mettent en place une espèce de couvre-feu digital dans le sens où il y a un panier où les jeunes mettent leur téléphone
portable. Et les parents aussi.
Et les parents aussi. Ceux qui ne savent pas, mais je le sais par mes patients, c'est qu'en catimini, vers 3-4 heures du matin, il y en a qui redescendent pour aller prendre leur téléphone et qui le remettent après, 2 heures après. Donc, mais ils savent que c'est...
Il y a une règle.
Voilà. Donc, ils le font, mais après, ils s'ajustent. C'est comme on le fait à l'adolescence. Et puis
Damien Mascret.
Oui, il y a aussi la question de une heure ou deux heures, même encore mieux, avant le coucher, d'arrêter les écrans.
Parce que là aussi, donc se mettre à lire sur un livre papier ou un magazine papier,
exactement,
plutôt que sur des écrans avec cette lumière bleue, etc.
Ou autre activité, ou à la limite télévision, et encore pas sur l'ordinateur, sa télé perso,
mais loin.
Comme on l'a, voilà, assez loin. Là aussi, pour mieux se préparer au sommeil, ça aussi, c'est, je pense, une recommandation facile
à faire. Donc enlever ou en tout cas changer la luminosité de vos écrans d'ordinateur, de votre smartphone, là, pour en diminuer les effets. Là, on reviendra sur quelques applications tout à l'heure. Et puis, se déconnecter au moins une heure avant de se coucher pour éviter, donc en l'occurrence, les effets de la lumière bleue et sur la sécrétion de la mélatonine. Et puis, peut-être aussi privilégier un réveil classique au réveil de smartphone afin de l'éloigner de la chambre. Parce que sinon, si vous utilisez votre téléphone comme réveil, évidemment,
en fait,
vous devez l'avoir.
En fait, souvent des jeunes, c'est oui, mais j'ai pas de réveil.
Donc, il faut acheter des réveils, les vieux bons
exactement.
Réveils.
Donc, racheter des réveils. Oui.
Ou dire papa ou maman te réveillera, ou papa et papa, ou maman et maman. Enfin, bref, on te réveillera.
Quand même aussi dire que quand on se avec un téléphone portable, la première chose, ça enchaîne tout de suite après le réveil, il y a tout de suite les notifications, donc c'est-à-dire que la toute première chose qu'on fait au réveil, avant même souvent de s'être brossé les dents, c'est de regarder et d'être déjà sur son téléphone
une
dans les 3 premières minutes.
Une majorité des gens dans les 3 premières minutes, donc c'est très...
En même temps, c'est naturel, on aime l'actualité, on aime la nouveauté, notre cerveau aime ça, donc on a envie de savoir, même sans être journaliste, on a envie de savoir ce qui se passe et ce qu'il y a de nouveau.
Alors, dans les études que vous avez faites, qu'est-ce que vous remarquez d'autre dans les addictions peut-être un peu plus graves qui peuvent apparaître? Évidemment, les conséquences que tous ces effets-là peuvent avoir sur la durée, en termes, je ne sais pas, du sommeil, de tout un tas de phénomènes qui vont être après psychologiques, psychiatriques par certains aspects, et même cardiologiques, puisque beaucoup de ces problèmes de sommeil sont liés à la cardiologie.
C'est-à-dire que le problème de l'utilisation excessive des portables, enfin des smartphones le soir et la nuit, va à la fois réduire le temps de sommeil et fractionner le sommeil. Donc là, pour le coup, alors c'est pas tellement dans, chez les jeunes, parce qu'ils sont encore au niveau état de santé, dans un process de complications, mais pour les adultes, c'est vrai que là, pour le coup, il y a plus de risques si l'on dort peu, en termes cardiovasculaires par exemple, et donc c'est pas du tout bon pour le cœur d'être dans une situation où on dort insuffisamment et où on est réveillé en cours de nuit. Donc ça, il faut y faire très attention.
Le prix Nobel de médecine, d'ailleurs, l'an dernier, avait été attribué à 3 chercheurs qui avaient découvert les gènes de régulation des rythmes cardiaques dits circadiens, l'alternance jour-nuit en particulier, point un peu technique. Évidemment, on peut aussi dire qu'en termes d'énervement, le manque de sommeil est très, très important, ou même d'accident de la route, puisqu'on s'endort au volant. Et là, Damien Mascret, la solution serait presque de remettre de la lumière bleue et d'allumer plus fortement son téléphone.
Complètement, dans la voiture, si vous avez le GPS, ou là, mettez-le en mode, mettez surtout pas en mode nuit, parce qu'il vaut mieux le mettre en mode bleu, hein, c'est sûr. Mais c'est vrai que votre cerveau, le cerveau est encore un cerveau de la préhistoire, hein, donc pour la régulation veille-sommeil, donc malheureusement, le monde moderne n'est pas adapté à ça. Mais c'est vrai aussi qu'après 18 heures d'éveil, on a pu calculer que vous aviez l'équivalent de 0,5 g d'alcool dans le sang, si vous êtes éveillé depuis 18 heures. C'est comme, nous on avait titré au Figaro, vous conduisez fatigué, vous conduisez bourré. Parce que c'est effectivement ce qui se passe. Après 24 heures d'éveil, vous avez l'équivalent d'un gramme d'alcool dans
le sang. Au Figaro, on a des formules. Mangez plus, faites du sport,
et dormez.
Voilà.
France Culture, Soft Power. Frédéric Martel.
Dans Soft Power, en direct sur France Culture, on parle ce soir du numérique et de ce que le numérique fait au sommeil. Nous sommes avec le docteur Damien Mascret, rédacteur et médecin et responsable des pages santé, notamment du Figaro, Figaro Santé, et le docteur Sylvie Royan-Parola, médecin psychiatre et spécialiste du sommeil. Hugo Mercier est le cofondateur de Dream, un bandeau connecté créé par l'entreprise Rhythm. Et ce bandeau a comme objectif d'aider ses utilisateurs à mieux dormir. En gros, on porte ce bandeau pendant la nuit et il analyse vos données corporelles et cérébrales pour vous aider à vous endormir et à mieux vous réveiller. Le cofondateur de Dream, ça s'écrit Dream, D-R-E-E-M, est avec nous par téléphone, je crois depuis le Maroc. Bonsoir Hugo Mercier.
Bonsoir.
Comment est-ce que ça fonctionne, Dream, avec deux E?
Alors, Dream, c'est un bandeau qu'on va porter sur la tête la nuit, qui est muni d'un certain nombre de capteurs pour mesurer l'activité cérébrale. C'est couplé aussi avec le rythme cardiaque et la fréquence respiratoire. Et le bandeau est alors à plusieurs fonctionnalités, le spectre s'est étendu au fil des années. On propose une série de fonctionnalités au début de la nuit pour favoriser l'endormissement. En moyenne, sur les utilisateurs sur lesquels on a testé le produit, on peut noter une réduction de 45% de la durée d'endormissement. On a ensuite un procédé d'induction de stimulation du sommeil profond, le sommeil profond étant l'une des phases particulièrement importantes pour la récupération pendant la nuit. Et donc on va envoyer des stimulations cérébrales synchronisées sur certains patterns, certaines formes de l'activité cérébrale en sommeil profond, ce qui va permettre d'en augmenter la qualité et l'amplitude des ondes lentes. Et puis en fin de nuit, comme vous le mentionnez, on a un réveil qui permet de détecter la phase de réveil optimale en fin de nuit pour ne pas être réveillé par exemple en sommeil profond et être fatigué au réveil. On a aussi des fonctionnalités en journée qui vont permettre l'accompagnement. On sait que une grande partie, puisque vous parliez des conseils pour des choses à éviter ou des choses à faire pour mieux dormir, une grande partie des causes de l'insomnie, ça va être des aspects, on va dire, psychologiques ou éducationnels sur comment dormir, comprendre son sommeil. Et donc on va essayer via l'application de proposer des recommandations également.
Comment est-ce qu'avec ces données qui permettent de montrer le fonctionnement de l'application Dream et du bandeau en l'occurrence qui va avec, comment est-ce que réagissent les professionnels de santé vis-à-vis de ce bandeau Dream?
Alors ça peut être assez mitigé, je pense que c'est normal hein, de pouvoir émettre certains doutes au départ. On est dans une démarche assez nouvelle.
Hein, expérimentale, oui, encore.
C'est plus trop expérimental dans la mesure où ça fait 4 ans qu'on existe, on a fait un essai clinique. On a fait un white paper et puis on a généré beaucoup, beaucoup de données. Après, c'est vrai que notre approche est moins conventionnelle qu'une approche d'un laboratoire ou d'un hôpital. Mais je pense qu'on va dire, on a des médecins qui nous accompagnent. On travaille par exemple avec Emmanuel Mio, qui est le directeur du Sleep Center de Stanford, et d'autres médecins. Après, il peut y avoir effectivement des questions, mais je pense que quand on rentre dans le détail sur l'approche qu'on a, on peut pas trop critiquer ce qu'on fait dans la mesure où on a beaucoup de produits qui sortent chaque année sur le sommeil, qui claim très fortement à leurs utilisateurs « vous allez mieux dormir ». En réalité, c'est souvent des accéléromètres. Nous, on a quand même des technologies qui se rapprochent de la polysomnographie ou de l'électroencéphalographie de laboratoire. Donc, je dirais qu'on a On a mis beaucoup d'efforts pour avoir une approche très rigoureuse d'un point de vue scientifique. Ça peut pas nous être reproché. Après, évidemment, c'est quelque chose qui va se compléter, évoluer, mais on a déjà maintenant près de 100 000 nids dans nos bases de données qui prouvent ce qu'on avance.
Hugo, merci pour terminer cet entretien par téléphone. Comment est-ce que vous voulez faire évoluer votre produit à l'avenir? Est-ce que vous comptez améliorer ce bandeau connecté ou bien développer de nouveaux produits? Alors, je ne sais pas, des pyjamas connectés, des traversins connectés, pourquoi pas des couettes connectées? Je plaisante, mais ça existe déjà.
Je pense que ça, on le laissera aux autres sociétés. Je pense qu'on va rester concentré sur la neurotechnologie. On a déjà beaucoup de développement technologique pour essayer de miniaturiser, de rendre encore l'utilisation du produit la plus transparente pour l'utilisateur. On a évidemment beaucoup de travail encore sur les aspects cliniques, de validation de ce qu'on fait. Et puis après, on a aussi des développements nouveaux. Donc déjà, notre vision est d'essayer effectivement d'aider tout le monde à mieux dormir. Et on sait que la problématique de sommeil, c'est en réalité une problématique complexe où il y a forcément beaucoup, beaucoup de causes différentes. Donc si on veut essayer de proposer quelque chose qui fonctionne pour le plus grand nombre, il faut remonter sur chacune de ces causes. Donc ça, c'est beaucoup de choses sur l'amélioration du sommeil. Et le dernier levier, je dirais, de nouveauté, c'est qu'on pense que en récoltant 7 à 9 heures d'enregistrement physiologique de très bonne qualité, par personne et par nuit, on a en fait des données absolument incroyables et qui nous permettraient peut-être de relier ça à des pathologies. Donc on se dit que peut-être on serait capable dans le futur de détecter en amont des mois avant l'apparition de certains symptômes des pathologies cardiovasculaires, neurodégénératives. On pense que le sommeil, c'est une très belle porte d'entrée sur le niveau de santé globale de la personne. Donc on a des développements et de la recherche en cours à ce sujet-là.
Merci infiniment Hugo, merci d'avoir été par téléphone en direct sur France Culture. Vous êtes le cofondateur de Dream, un bandeau connecté. Alors là, on termine avec cette troisième partie sur, au fond, les possibilités, et notamment peut-être plus positivement sur les rapports entre le numérique et le sommeil que ce que nous avons commencé. Nous avons parlé des effets pervers, des effets négatifs du numérique sur le sommeil. J'aimerais conclure peut-être sur les opportunités, les applications intéressantes ou les outils qui permettent d'améliorer son sommeil grâce au numérique. Et puis la question des données qui a été évoquée, question à l'instant. Quelque chose qui revient souvent, puisqu'on a repéré, on va les citer tout à l'heure, mais un grand nombre d'applications. Je pense à Sleep Cycle, qui est une application pour Apple et Android. Je pense à Good Morning, une application d'Apollon pour Android et Apple. Better Sleep, créée par Run Static. Sleep Time, créée par Azumio. La plupart de ces applications, elles proposent au fond de vous réveiller, c'est un modèle assez fréquent, de vous réveiller un peu avant le moment où vous devez vous réveiller réellement, parce qu'elle va anticiper ce réveil en phase de sommeil léger. Est-ce que l'un et l'autre, Damien Mascret et Sylvie Royan-Parola, vous êtes tous les deux médecins, est-ce que ça vous paraît concluant comme processus, comme idée ?
Alors, effectivement, il y a un moment pour se réveiller et on est dans une... Souvent, enfin, la personne qui dort pas bien va avoir tendance à essayer de prolonger son sommeil alors qu'elle est en réalité déjà réveillée avant et qu'il vaudrait mieux qu'elle se lève à ce moment-là. D'ailleurs, vous avez probablement tous fait l'expérience de vous réveiller une première fois le week-end et puis vous sentir plutôt en forme et vous vous dites « Ah ben non, il est trop tôt, je me rendors » et vous vous réveillez complètement crevé après, parce qu'en réalité, tout votre corps était préparé avec un pic de cortisol juste à ce moment-là et puis vous ne l'avez pas écouté, donc c'est dommage, vous l'avez raté. Donc ces applications ou ces programmes vont vous aider à, dès que vous commencez à un peu trop bouger, à vous réveiller plutôt à ce moment-là. Donc c'est plutôt une aide au réveil qui n'est pas inintéressante. Maintenant, vous avez aussi des tas de systèmes qui se mettent dans le matelas, voire même qui vont être connectés ou posés sur le matelas pour certains, entre le drap et le matelas. Et c'est probablement quand on dort le système le plus opérant, parce que d'avoir un objet sur soi ou de faire appel à des systèmes compliqués, on va pas dormir toutes les nuits comme ça.
Oui, donc, c'est un peu un gadget, on essaye trois nuits ou trois semaines et après on l'arrête.
Il y a probablement à l'avenir des choses tout à fait fascinantes à faire avec la literie et ce qui s'intègre à la literie. D'ailleurs, il y a des choses qui commencent à sortir et on revoit par des systèmes de sensitive bed qui ont été développés dans les années 80. hein, et qui n'ont jamais, qui sont jamais sortis à ce moment-là.
Pas commercialisés au niveau du grand public,
voilà,
pour l'instant.
Qui commencent à réapparaître. Donc on voit bien qu'on va avoir des lits intelligents. Donc c'est probablement là que ça va être très intéressant.
Damien Masqué, sur toutes ces applications, je pense aussi à Sleep Cycle, à Pillow, qui porte un bon nom d'ailleurs, juste le matelas finalement, le traversin, enfin le coussin,
l'oreiller,
voilà,
l'oreiller.
Pour dormir, Réveil Musique Extrême gratuit, Google Fit, enfin il y en a beaucoup. Comment vous réagissez sur ça?
Là aussi, il faut être prudent, parce que c'est vrai qu'il y a une part de beau design et de beau marketing. On vous décrit, vous pouvez revoir vos cycles, hein, alors qu'en fait on sait très bien que ça n'a pas une très bonne de corrélation avec ce qui s'est passé.
On vous note quand même vos nuits de sommeil. On vous dit là, cette nuit, c'était très bien. Alors, parfois, vous avez dormi 5 heures. On vous dit, mais là, c'était merveilleux. Il y avait 4 heures de sommeil profond.
Oui, il y a une récompense. C'est vrai que c'est encore une fois, c'est bien. Vous êtes récompensé. Mais on sait que la corrélation, voilà, avec un enregistrement fait sérieusement en polysomnographie avec des tas de capteurs, peut donner des résultats différents. Il y a eu récemment, d'ailleurs, une étude coréenne avec une équipe de Harvard l'an dernier qui a été publiée pour justement comparer un bracelet avec un enregistrement polysomnographique. Et on s'est aperçu que pour ceux qui n'avaient pas de problème de sommeil, eh bien dans 80% des cas, il y avait une assez bonne corrélation entre finalement le petit bracelet et ce qu'avait dit la polysomnographie. Par contre, quand on était avec des gens qui avaient des problèmes de sommeil, on tombait à 40% de bonne corrélation.
Si vous avez des problèmes, ça ne sert à rien. Ouais.
Si vous avez des problèmes, il vaut mieux aller voir un professionnel et faire ça sérieusement. Mais malgré tout, encore une fois, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que effectivement, tout à l'heure, Hugo Mercier le disait, il y aura peut-être des pistes pour certaines pathologies. Là aussi, une étude encore une fois de République de Corée, a été faite sur l'hyperthyroïdie.
Corée du Sud, hein, bien sûr.
Oui, Corée du Sud, pardon, excusez-moi. a été faite et on s'est aperçu que finalement, les gens qui avaient une hyperthyroïdie, qui ont souvent du coup un cœur qui peut avoir des palpitations, des accélérations, ce qu'on appelle la tachycardie, il n'est pas question de leur faire des enregistrements en permanence, etc. Or là, avec ces dispositifs, c'est l'occasion peut-être de repérer un peu mieux ce qui se passe, et ça peut peut-être être utile aux médecins qui vont ensuite les prendre en charge. Donc il y a peut-être des perspectives malgré tout intéressantes. Puis dernier conseil à Hugo Mercier, si je peux me permettre, ou à d'autres. Vous avez parlé du pyjama connecté. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, parce que on sait que pendant il y a une des
ça
phases...
existe, c'est pour ça que je le dis.
Et puis il y a une phase qui nous intéresse dans le sommeil, c'est la phase justement de sommeil paradoxal, pendant laquelle chez les hommes, en tout cas, ça pourrait être utile, il y a une érection. Donc on pourrait avoir un pyjama connecté avec un capteur pénien, par exemple, qui nous renseignerait peut-être très fidèlement.
Je sais là, pas je si vois que fait. Le spécialiste du sommeil, qui est aussi sexologue, voilà. Ça rejoint vos deux métiers.
Et c'est une piste.
Damien Masqué, deux applications que je recommande. Sleep Tracker, elle vous permet en plus de vous proposer le journal des rêves. Comme ça, à la fin, vous avez même le journal de vos rêves. Et puis, beaucoup plus simple, une application qui s'appelle F.Lux. Elle est gratuite sur Windows et Mac. Et c'est un petit logiciel qui transforme la lumière bleue de votre écran et à partir du soir, modifie la luminosité automatiquement. C'est gratuit et c'est une application qui est personnalisable. Vous choisissez les heures éventuellement, et sinon c'est la lumière du jour qui intervient. Zoé Sfès, pour conclure.
Quand même, petite dernière précaution d'usage, comme toujours, pour ce type d'application, comme pour toutes les applications de santé, il y a quand même toujours la question stratégique des données, à qui elles sont, où est-ce qu'elles vont. Hugo Mercier à une entreprise. Alors ce masque, il faut quand même le dire, il coûte 500 euros. Là, il était en train de nous dire qu'il y avait plein de choses potentiellement magnifiques à faire avec ces données. Bon, à qui est-ce qu'il les commercialise?
À qui profitent les données?
À qui elles profitent? C'est toujours une question qu'il faut garder dans un coin de la tête, même quand on dort.
Regardez les confidentialités, c'est vrai qu'on citait les applis. Moi, j'aime bien l'appli e-sommeil, hein, parce que effectivement, elle est faite par des médecins de l'Hôtel Dieu. Ils ont pris toutes les garanties pour qu'effectivement les données ne partent pas n'importe où. Vous savez que vous avez des applis qui enregistrent, soi-disant, les ronflements, qui peuvent aussi enregistrer ce qui se passe pendant le sommeil. Donc, faut quand même faire attention.
Je vous propose, pour terminer cette séquence, d'écouter un extrait d'un podcast. Alors, il y a des podcasts. Je ne sais pas si c'est très efficace, mais en tout cas, en radio, c'est assez beau.
Des podcasts
qui vous aident à vous endormir. Celui-ci s'appelle Sleep With Me. Écoutez.
Ladies and gentlemen, boys and girls, friends behind the binary.
Mesdames, messieurs, amis non-binaires et à tous les autres qui nous écoutent, animaux ou tiens, brosse à dents, si certaines écoutent. D'ailleurs, brosse à dents, félicitations pour cet accès à la conscience. C'est une bonne nouvelle. Mais c'est l'heure de se coucher, c'est l'heure de Sleep With Me, le podcast qui se couche avec vous.
Voilà, à l'instant, vous voyez bien, il parlait même à sa brosse à dents. Voilà, c'est des podcasts pour s'endormir. Si ça vous amuse, on peut toujours essayer ça. Merci infiniment à tous les deux. Sylvie Rognan, Parola, vous êtes médecin psychiatre, spécialiste du sommeil. Docteur Damien Mascret, vous êtes rédacteur responsable du Figaro Santé, journaliste aussi santé. Pour aller plus loin, on va vous mettre une liste d'applications, tout un tas d'articles à lire, de références, des études aussi. Tout ça, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur Twitter au mot-clé Soft Power et sur notre page sur le site de France Culture. Dans un instant, Soft Power, seconde partie de cette émission. Après le sommeil, on parlera du numérique notamment et des GAFA, tout à fait notre sujet, la fiscalité des GAFA et comment faire payer des impôts à ces géants du net, Google, Apple, Facebook et Amazon. Et dans un instant, à 20h, Zoé Svez, votre invité innovation.
Il entre en studio, il s'appelle Jules Lavie et il est à la tête d'une nouvelle aventure papier qui est dans vos kiosques, qui s'appelle Vraiment l'hebdomadaire, sous-titré Vraiment sérieux, vraiment curieux.
Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power disponible gratuitement sur iTunes, sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Tout cela à suivre après 30 sur France Culture. Écoutez, c'est Roots.
Put your hand on the small of my back. I was surprised that you touched me like that. But there in your hand was a current of life. I could hardly stand or stay still. And I didn't imagine it. If I did, I'd make some joke of it. It was strange how I could feel so sane, so plain when you're around. Colored rose and easy. Yeah, I could see it so simple, unsubtle, impossible, clearly and strange, foreign as close as a mountain range. On the horizon, driving all day, there I was so sane, so plain after everything.
À l'instant, The Weather Station, l'une des révélations du festival South by Southwest qui vient de se terminer à Austin, dans le Texas. La chanteuse folk canadienne de Toronto, Tamara Lindemann, que l'on écoute, s'est produite dans ce festival qui reste incontournable à la fois pour les nouveaux sons un peu rock et country, plus ou moins roots, je le disais d'ailleurs, sont très Austin, mais aussi pour le numérique. South by Southwest est en effet devenu, depuis sa création en 1987, l'un des premiers festivals au monde pour l'innovation technologique. Twitter ou Foursquare ont été révélés à Austin. Et entre musique, cinéma et technologie, South by Southwest continue à être l'une des matrices de l'innovation made in USA.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Jules Lavie.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, nos auditeurs vous connaissent, parce que je suis sûre qu'ils voyagent d'une chaîne à l'autre sur le groupe Radio France, parce que vous avez travaillé longtemps à France Info, où notamment vous animiez la matinale du week-end, donc au cœur de l'actu chaude, et en plus
pendant
au cœur de l'actu chaude avec la voix. Et là, à 40 ans, et c'est important, je tiens à le dire, parce que la question de la génération compte dans cette aventure dans laquelle vous êtes lancé. Vous faites partie des trois fondateurs d'un hebdomadaire qui est en kiosque, pardon, et qui s'appelle Vraiment, sous-titré l'hebdomadaire Vraiment sérieux, vraiment curieux. Alors, peut-être une question très simple pour commencer. Vous n'êtes pas les seuls, et loin de là, cette année 2018, à lancer un nouveau média. Vous êtes le deuxième à lancer un média qui est un média papier, qui est un hebdo en kiosque. Avant vous, il y avait Hebdo, qui n'a pas connu un destin fort heureux, on va y revenir. Mais c'était quoi votre constat, votre envie? Pourquoi est-ce que précisément cette envie-là? Et à quel moment vous vous êtes dit cette envie est suffisamment précise pour pouvoir et même pour qu'elles doivent exister?
Alors vous avez raison de parler d'envie, puisqu'à la base c'est avant tout une envie. On discutait avec Julien Mendès un dimanche matin, après une matinale sur France Info de mon côté. On parlait économie, politique, on parlait de la presse, et on a fait ce constat. On s'est dit qu'en fait on n'avait plus de journal de cœur qu'on achetait réellement, même s'il y a beaucoup de journaux qui restent des références comme Le Monde. On n'avait pas un journal qu'on avait à tout prix envie d'acheter, qu'on avait envie de retrouver régulièrement. Et on s'est dit, et si on lançait ce journal? Et en gros c'est parti comme ça. On s'est dit chiche, et aucun de nous deux n'a abandonné l'idée. Julien Mendès est en charge de trouver les financements, moi étant chargé de trouver la rédaction. Et on a été, ce projet a abouti, puisque maintenant, vraiment, 84 pages d'informations est en kiosque depuis mercredi chez tous les marchands de journaux en France.
Alors justement, on va y revenir. Jules Lavie, parce que du coup, vos deux cofondateurs s'appellent Julie Morel et Julien Mendès. Vous avez un truc avec le Jules dans cette équipe, clairement. Mais plus précisément, quand vous dites on n'a plus d'hebdo de cœur, ça veut dire deux choses. Ça présuppose que vous avez encore envie de lire du papier. Et ça veut dire que ceux qui existent, parce qu'il y en a quand même qui existent encore, toujours des grands titres, vous considérez qu'ils ne sont plus des hebdos qui vous correspondent à vous. Pourquoi ? C'est qui ce vous ?
Alors, déjà c'est moi, à titre personnel. Je n'avais pas jusque-là une folle envie d'acheter ces journaux. J'avais moindre envie. Le désir s'était un peu émoussé, même si à la base, Le Nouvel Observateur, par exemple, tout comme Courrier International, sont des journaux qui m'ont donné envie de devenir journaliste quand j'avais 15-16 ans. Donc j'avais moins envie de les lire. Et pour vous donner une anecdote, il y avait certains de ces journaux qui traînaient à la rédaction à France Info, personne ne les prenait. Et ça, pour moi, c'était un signe qu'il y avait un problème. Et donc on s'est dit, voilà, on veut faire un journal, un hebdo généraliste, un newsmag, comme on dit en anglais, pour une autre génération qu'on a peut-être assez de voir des unes sur l'immobilier, sur les francs-maçons ou sur l'islam. Voilà le constat de départ. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on dit, mais alors, les autres sont pas bien. Mais on dit pas ça. C'est juste qu'on avait envie d'autre chose. On propose autre chose. C'est une nouvelle offre d'information qui s'appelle Vraiment, qui est présente chez tous les marchands de journaux. Et voilà, on a eu envie de proposer quelque chose d'autre. Donc on a réuni des dizaines de talents, toute une équipe pour proposer autre chose. Alors, on réinvente pas la roue, c'est clairement toujours un newsmag. Donc, ça ressemble furieusement à un newsmag ancienne génération, sauf que les sujets sont pas les mêmes.
Un newsmag à l'anglo-saxonne, vous faites partie des gens. Vous citez beaucoup dans vos exemples, dans vos références, plutôt des newsmags en anglo-saxon.
Alors, c'est vrai que moi, ma grosse référence était l'International Herald Tribune, qui est une sorte de version monde du New York Times, que j'ai adoré avec ce journal. J'en parle au passé, même s'il avait plus de 100 ans d'existence, qui était construit, fabriqué à Paris, puis à Courbevoie. C'est qu'il s'adressait à des gens de la terre entière, qui avait toutes sortes de cultures, de pays d'origine et de langues. Et donc, le niveau d'anglais du Herald était plutôt simple. Et ça m'a permis, à partir du moment où je l'ai découvert en 2006, de le lire très régulièrement, d'apprendre tout un tas de choses sur l'économie. Typiquement, c'est grâce à ce journal, le Herald, que je me suis dit que c'était possible de lever 2 ou 3 millions d'euros, puisque finalement, quand on s'intéresse de près à l'économie, on se rend compte qu'aujourd'hui, 2 ou 3 millions d'euros, c'est une goutte. Et donc, on s'est dit, voilà, c'est possible. Et pareil, en lisant ce journal, j'ai appris qu'il y avait un jeune New-Yorkais qui avait créé 2 magazines à lui tout seul dans son coin. Je me suis dit, voilà, si un New-Yorkais peut créer 2 mensuels, on doit pouvoir réussir à créer un hebdomadaire. Et c'est pas fou, finalement, de lever 3 millions d'euros, même si plein de gens sont dans la misère. Pour beaucoup d'autres personnes, 3 millions, c'est absolument rien aujourd'hui.
Mais alors justement, parlons peut-être un petit peu de ces fondateurs, puisque vous êtes 3 dans cette affaire. Il y a donc Julie Morel et Julien Mendès, qui tous les deux se sont connus parce qu'ils étaient les anciens conseillers ministériels d'Emmanuel Macron. Puis d'ailleurs, ils ont travaillé avec Michel Sapin. Alors, clairement, la question se pose, vous êtes le seul journaliste de ce trio. On a pas ou peu de politique, on va y revenir dans le contenu de ce journal. En fait, si, on a de l'analyse. Est-ce que vous êtes journaliste, vous êtes tout à fait au fait de la critique, on va dire structurelle, auquel les médias doivent faire face aujourd'hui? Est-ce que c'est pas aussi un peu, soyons vulgaires, casse-gueule, de lancer un journal avec 2 anciens conseillers?
Alors, oui et non. Déjà, Julien Mendès et Julie Morel étaient des conseillers techniques à Bercy. En fait, ils sont un peu comme moi, c'est-à-dire qu'ils ont servi l'État. Moi, j'étais un journaliste du service public. Eux, ils ont servi l'État. Julien Mendès, il est docteur en économie, c'est un ancien prof d'économie à la Fac de Lille. Il a fait sa thèse sur Karl Marx. Il a travaillé à l'Agence des participations de l'État. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en tant que conseiller technique dans un cabinet à Bercy. Casse-gueule, oui et non. Parce que finalement, c'est grâce à ce CV et moi, grâce à mon CV, l'étiquette France Info, qu'on a réussi à créer le projet. Quand on a été voir Funny Bones, un studio de design de presse, Julien et moi, dans un café de Montmartre, on n'avait absolument rien, si ce n'était nos 2 sourires et nos CV. Donc finalement, ça nous a beaucoup aidé que Julien et Julie aient travaillé à Bercy avec Emmanuel Macron, puis Michel Sapin. Ça a en fait crédibilisé le projet. Et donc voilà. Après, donc la question, c'est est-ce que vous êtes macroniste? Ma réponse est clairement non. À titre personnel, je ne suis absolument pas macroniste. Julien Mendès et Julie Morel sont fondamentalement attachés à leur liberté. Ils ont lancé ce projet parce qu'ils adorent la presse de qualité. Effectivement, leurs références sont aussi pas mal du côté de la presse anglo-saxonne. Mais donc, non, clairement, on ne fait pas un média macroniste. Dans l'équipe, il y a toutes sortes de sensibilités, des gens de gauche, de droite. Et donc non. On n'est pas macroniste, on a envie de défendre et de proposer encore une fois un nouveau journal qui s'appelle Vraiment.
En deux mots quand même, parlons de ce contenu, parce que donc du coup vous titrez sur le premier numéro sur WhatsApp, c'est pour ça que vous êtes en plus d'autant plus innovation et d'autant plus légitime
Seulement.
À venir, parce que vous faites une belle enquête. Alors la question c'est, est-ce que c'est vraiment une enquête? C'est un très long papier qui analyse les usages, les conditions de naissance, les risques qui sont liés à WhatsApp. Il y a toute une partie, on va dire presque plus d'actu, en tout cas de société, qui est France, économie, monde. Il y a une carte de la semaine qui est très jolie, mais qui pourrait être publiée aujourd'hui comme il y a 6 ans, comme dans 10 ans en fait, même si justement... Donc,
on fait de l'info de contenu, en temps long, effectivement.
Voilà, info en temps long. Je crois que vous laissez 3 jours entre le moment de parution et le moment du bouclage. Ce qui est
5 jours.
5 jours.
Voilà,
ah oui,
on a énormément de temps.
Vous avez énormément de temps. Donc, et ensuite, toute une autre partie qui, justement, s'appelle au calme, qui est probablement la partie la plus substantielle. Pourquoi
est-ce que vous,
la plus substantielle, la plus longue, je crois, en termes de temps, c'est 50-50, voilà. Pile 50-50.
En gros, oui.
Et je crois savoir que dans vos pilotes, vous avez rajouté de l'espace à cette partie-là ou pas?
Non, on a juste modifié la partie au calme, donc la partie bien-être culture, parce qu'en fait, nos abonnés fondateurs avaient dit que c'était pas assez innovant. Donc on a modifié, en fait, on a essayé de mettre plus de choses un peu surprenantes. Typiquement, il y a un nouveau format qui s'appelle C'est décidé jeu. Et là, le premier sujet dans ce numéro 1, vraiment, c'est décidé jeu de la répartie. Règle numéro 1, il faut se faire confiance. Règle numéro 2, il faut toujours répondre quelque chose, même si c'est n'importe quoi. Enfin voilà, donc, quelle était votre question déjà? Excusez-moi, j'ai
oublié. Ma question, c'était la question de la répartition entre les deux et de cette question du contenu. C'est-à-dire, c'est quoi le juste temps? Comment est-ce que vous décidez? À quel moment vous décidez de faire des sujets? C'est-à-dire, là, concrètement, vous travaillez sur des sujets pour quand?
Alors, on travaille sur des sujets pour dans 2-3 mois, par exemple. Donc, à la une du numéro 1, vous l'avez dit, il y a le WhatsApp. C'est quelque chose qui est très intéressant. Pourquoi? Moi, je réceptionnais des sujets de partout en France et dans le monde. Typiquement, des mineurs sud-africains au fond de leur mine qui communiquent entre eux via WhatsApp, des migrants à Calais qui communiquent entre eux via WhatsApp. En Espagne, WhatsApp est ultra utilisé. Un sujet qui va venir sur les évangélistes qui utilisent WhatsApp. Tout le monde utilise WhatsApp. Dans l'entreprise, vraiment, on utilise WhatsApp. On a un groupe pour les couvertures, un groupe pour Julien, Julien et moi, un groupe rédaction, un groupe rédchef. Donc on s'est dit, voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement commun, très utilisé. Finalement, on n'y fait pas attention. Puis on s'est dit, voilà, est-ce qu'il y a un loup derrière WhatsApp? On a cherché le loup. Il y a aussi toute une page avec WhatsApp en 5 points à la fin qui donne des informations. WhatsApp, notamment mise en demeure par la CNIL pour avoir donné les 0,6 de tous ses abonnés à Facebook, qui a racheté WhatsApp pour 22 milliards de dollars.
Dernière question, vous vendez votre journal 4,50 €. Vous avez parmi, vous l'avez dit, les gens qui ont investi, Bernard Mourad, qui a lancé récemment l'Obsider et qu'on avait reçu assis à Softpower. Il y a évidemment deux mois avant vous, Hebdo, avec des gens qui connaissaient quand même très bien leur métier, le lancement du journal qui s'appelait Hebdo, avec des gens qui avaient quand même lancé 21, donc qui étaient tous des journalistes papier. Finalement, ils n'ont pas survécu, ils le disent, ils n'ont pas rencontré leur public. Vous vous donnez combien de temps et vous avez quels objectifs?
Alors, on se donne 1 an et demi pour convaincre les lecteurs. L'objectif, c'est 40 000 exemplaires vendus chaque semaine, soit par abonnement, soit chez les marchands de journaux, pour atteindre un point d'équilibre. Un mot sur le prix de vente, c'est 4,50 €. J'ai conscience que c'est pas donné. On a une offre d'abonnement qui est à 5 € par mois pendant 2 mois, puis 14 € pour tout le monde, et 9 € pour les moins de 26 ans. Et on vise aussi beaucoup les étudiants, par exemple, qui peuvent être intéressés par un nouveau journal d'information creusé chaque semaine. Et plus d'infos sur vrmt.fr.
Voilà, mais il y aura justement site internet existant, pas existant, qui reprendra des choses, pas du tout?
Alors vrmt.fr, c'est notre site internet pour l'instant. On espère à terme, d'ici quelques mois, avoir une application et donc le contenu disponible sur l'application, mais c'est sûr qu'on veut se concentrer sur notre métier principal, qui est la fabrication de reportages et d'enquêtes fouillées de qualité. Donc on ne mettra pas 3-4 personnes sur un site web parce que ce serait trop cher pour nous. Concrètement, on est une petite équipe, on n'a pas les moyens d'avoir un site web mis à jour régulièrement dans la journée.
Merci beaucoup Jules Lavie, vraiment en papier dans votre kiosque avec donc cette enquête WhatsApp, ma tribu et moi. Merci beaucoup.
Merci
Jules Lavie. On vous avait vu et croisé d'ailleurs, je crois, à France Info. Hein.
Oui, je crois que je l'ai rappelé d'ailleurs.
Je sais, j'ai entendu.
Vous aussi, on vous avait vu croisé à France Info.
On y était ensemble. Voilà.
Un journaliste du service public pendant 15 ans, on le reste un peu toute sa vie.
Un peu toute sa vie. Allez, vraiment, bon vent.
Merci.
Le temps de vous dire.
Le numérique et politique. Le débat, Frédéric Martel.
Voilà, nous y sommes. Le numérique et politique. Le débat de ce soir est consacré à la fiscalité des GAFA. Tout le monde rit dans ce studio ce soir. C'est le changement
c'était
d'heure.
C'était cette émission sur le sommeil. Clairement, c'était pas concluant du tout. La concentration est au plus bas.
On s'est pas endormi. C'était pas soporifique. C'est ça que ça veut dire. Le numérique et politique. Le débat de ce soir est consacré à la fiscalité des GAFA. Comment peut-on faire payer des impôts à Google, Apple, Facebook et Amazon? Et c'est justement ce que propose de faire le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. On en débat ce soir avec vous, Jean-François Césarini. Vous êtes député, député de La République En Marche, député du Vaucluse, d'Avignon, Séverin Audet, ancien conseiller numérique à Matignon, conseiller en innovation au cabinet de concert Tilder. Alors Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, a annoncé début mars que la Commission européenne préparait une directive sur la taxation des grandes entreprises d'Internet. Pierre Moscovici, le commissaire européen à la fiscalité, l'a confirmé cette semaine et il a présenté le projet de taxe dite Google. Alors au départ, cette taxe était censée viser les grandes entreprises américaines d'Internet et un peu seulement elles, Google, Apple, Facebook et Amazon, notamment en décidant que leur taux d'imposition moyen serait de 9% au lieu des 23% que payent les autres entreprises. La taxe vise donc les revenus et non pas les profits réalisés par ces entreprises. Elle serait de 3%, une mesure qui pourrait, si elle voit un jour le jour, rapporter 5 milliards d'euros par an aux pays membres de l'Union européenne. Séverin Audet, pour commencer, déplacer la taxation des profits comme cela se fait d'habitude vers les revenus, est-ce que ça vous paraît être une bonne idée?
Ah non, si on répond juste à cette question-là, il faudrait que c'est une très très mauvaise idée. Ça veut dire, c'est même assez...
Une aberration économique.
Non, mais c'est même assez étonnant de le proposer, quoi. C'est-à-dire qu'on oublie juste qu'une entreprise peut faire du chiffre d'affaires et perdre énormément d'argent.
Et pas de faire de bénéfice.
Ça s'appelle juste, c'est le principe.
Ce qui est le cas de beaucoup des startups du
oui,
web au début.
Et alors le deuxième point, c'est qu'effectivement, c'est encore très inquiétant sur la compréhension de l'économie numérique par nos régulateurs, puisque le principe de l'économie numérique, c'est qu'on investit beaucoup longtemps et qu'on a un revenu qui arrive relativement tardivement et qui, par ailleurs, peut être assis sur des chiffres d'affaires avec des assiettes très larges. Voilà, donc les deux premières questions, la réponse est effectivement, c'est une très très mauvaise idée. C'est pas un très bon signal. Et en plus, on comprend bien le principe et l'envie de dire qu'on va taxer un peu plus le profit, pour le coup, au départ, et du coup, taxer tout court les GAFA. Simplement, en fait, ce qu'on est en train de préparer là, on va taxer autant d'entreprises européennes que d'entreprises américaines. Si on rentre dans le détail, hein, vraiment de la mécanique, les effets de bord sont extrêmement nombreux.
C'est quoi un effet de bord?
C'est-à-dire que, par exemple, cette taxation, elle est sur les entreprises qui ont des marketplaces, qui font de l'intermédiation et qui, en gros, monnaient de la data. Bon. En France, par exemple, on a un écosystème de la publicité sur Internet qui est très, très puissant. On a beaucoup d'entreprises, j'en ai créé une il y a quelques années, qui marchent très très bien, contrairement à beaucoup d'autres pays en Europe.
Donc on va s'auto-taxer. Quoi.
Je vous donne un exemple très concret. La première année, l'entreprise que j'avais créée en 2014, on avait fait 85 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on a déjà dépassé le seuil des 50 millions dont on parlait. Et on se prend 3%. À la seconde où n'importe quelle start-up va intégrer une structure économique qui fait plus de 50 millions, elle sera éligible à cette taxation. Je prends un deuxième exemple. Le groupe Accor aujourd'hui fait un travail formidable pour se transformer, se digitaliser. Ils se battent contre e-booking, ils se battent contre
Expedia
et toutes les plateformes américaines. Et ben toutes les startups qui sont en train d'intégrer, d'acheter pour changer de modèle vont être éligibles à cette taxe de 3%. Et donc Accor va être taxé comme un GAFA. C'est une absurdité.
Sur ce sujet, Jean-François Césarini, vous êtes député La République En Marche.
Non, mais il faut comprendre d'abord l'avancée, conceptuelle et juridique qu'il y a eu cette semaine. Après, on peut avoir le débat sur profit-revenu. Aujourd'hui, on est le premier continent au monde, sous l'impulsion de la France, à dire il faut qu'on arrive à taxer des entreprises, pas simplement parce qu'elles sont présentes physiquement sur un territoire national, mais qu'elles aient une présence numérique. Et de forger ce concept-là, juridiquement parlant, est quand même une avancée énorme. Ensuite, dire, évidemment.
Une avancée énorme, mais il y a 10 ans qu'on le dit, on l'a pas fait. Donc, une avancée et on l'a pas encore fait. Donc.
Non, et on l'a pas encore fait. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est vrai que quand on est dans une révolution industrielle aussi forte que celle qu'on a vécue avec le numérique, il est évident que le politique, le technique, le juridique court après, cavale après, et on doit aussi à la fois le penser, déjà, et je suis assez d'accord sur le fait qu'il y ait des structures techno qui ont du mal à penser cette réalité-là, et ensuite à le faire, parce que là on va avoir un problème effectivement de majorité, donc à la fois, est-ce qu'on va rester sur cette unanimité qu'il faut avoir, où j'ai vu aussi que le président Xavier Bertrand de la région pensait peut-être avoir trouvé, pour contourner, avoir une majorité qualifiée, donc sur un fait de distorsion d'imposition par rapport à la concurrence, bon très bien, j'ai dit juste que pensons déjà que j'avoue que ça va lentement, mais c'est quand même un pas important, au moins conceptuellement et juridiquement, de se dire qu'aujourd'hui, on va essayer de réfléchir à comment taxer les entreprises qui ont une présence numérique et non pas seulement physique sur le territoire.
Ouais, mais enfin, franchement, le sujet, c'est quand même qu'on n'arrive pas à faire l'harmonisation fiscale européenne, même sur des verticales comme le numérique depuis des années. Je vais reprendre
du fait du Luxembourg, de l'Irlande,
oui,
etc.
Et je vais reprendre l'exemple du Luxembourg. Vous savez que le Luxembourg, on considère à peu près, les analystes considèrent que 50% de son PIB s'est produit à l'extérieur du Luxembourg en Europe. Et donc la solution qu'on trouve, c'est de se dire on va taxer des entreprises et puis en fait on se rend compte qu'on va abîmer l'activité économique et qu'on va abîmer le développement de la nouvelle économie en Europe, alors qu'on a besoin de construire des champions français et des champions européens pour se battre contre les GAFA américains. Donc on a exactement l'effet inverse de ce qu'on veut,
oui, mais c'est vrai,
sans s'attaquer au problème.
Ouais, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire alors à ce moment-là? Parce que vous dites on veut protéger les entreprises françaises, mais on va avoir Spotify qui sera tué par Apple Music, etc. Si on ne fait rien, qu'est-ce qu'on peut faire?
Là, Spotify va être taxé par les 3%. Oui, ils vont rentrer immédiatement.
Mais vous êtes en train de dire qu'il est trop tôt ou trop tard.
On va considérer qu'il y a des entreprises numériques américaines qui ne payent pas d'impôts, et ce n'est pas bien, mais qu'il y a des grandes entreprises numériques européennes qui ne payent pas d'impôts, et ça, ce serait vachement bien. Il y a un mot où je veux dire...
Mais quelles seraient les propositions, c'est vrai, Nodé?
Les propositions, à nouveau, je vais rappeler un truc. Vous vous souvenez que l'Irlande, au bord de la banqueroute, a demandé au reste de l'Union européenne de l'aider à restructurer sa dette de 30 milliards. Quand on aide avec l'argent du contribuable français à restructurer 30 milliards de dettes en Irlande, on pourrait peut-être leur dire à ce moment-là, bon les gars, sachant qu'à peu près, encore une fois, c'est un tiers de leur PIB qui se fait ailleurs en Europe sur ce genre d'activité.
On vous aide, mais
maintenant, on va trouver un mécanisme qui permet de collecter cet argent de manière centrale en Europe et de le répartir justement à tout le monde. Voilà, ça c'est une première
Jean-François
solution.
Jean-François Cesarini.
On est clair que cette taxe-là de 3% dont on vient de parler, elle est dite et affirmée comme une taxe temporaire, et pour effectivement ensuite réfléchir à une refonte de la fiscalité plus générale en Europe. Donc c'est plutôt là où il faut qu'on réfléchisse tous ensemble aujourd'hui, pour qu'on arrive à quelque chose de beaucoup plus pérenne. Aujourd'hui, c'est une étape, c'est-à-dire on met un pied dans la porte. Alors aussi maladroit soit-il, mais n'empêche qu'il y a un pied dans la porte qui dit, là, vous allez enfin... peut-être nous donner de l'argent sur un concept qui s'appelle la présence numérique. Mais on est d'accord, ça ne peut pas être un système pérenne où on dit effectivement là on a trouvé la solution, clairement.
Alors vous savez ce qui va se passer? Juste parlons Frédéric. Il y a le système, pour moi, il est relativement simple. Les pays qui vont dire oui à cette taxe bricolée sont des pays qui hébergent les entreprises américaines et qui gagnent énormément d'argent grâce à ces entreprises américaines, mais qui n'ont pas de start-up, qui n'ont pas cette économie numérique, cet écosystème. On parle de l'Irlande, on parle du Luxembourg, on parle de certains pays de l'Est qui profitent grâce à leur fiscalité très basse de la présence tout à fait légale de ces entreprises américaines. Et puis nous, on va pénaliser le développement de notre économie numérique et voyez bien l'absurdité du système.
Alors d'autant plus que cette taxe ne vise pas des entreprises en particulier, mais des activités, la vente d'espaces publicitaires, par exemple en ligne, les services d'intermédiation ou la vente des données, donc en seront exclus. Donc Amazon et Netflix y échapperont donc. Est-ce une limite à cette proposition, Jean-François Cesarini?
Non, il est évident que quand Amazon et Netflix
ne mettent
pas
de rire.
Non, mais bien sûr, c'est évident. Mais par contre... Moi, je suis pas tout à fait d'accord sur l'économie numérique. C'est-à-dire qu'on peut pas faire une taxe anti-américain, anti-GAFA. Je pense qu'il faut faire une taxe plus générale, effectivement, sur
la fiscalité des entreprises
sur
numériques.
Numérique tout court. Ouais. Je veux dire, c'est ça qu'il faut, sur laquelle il faut penser. Et sans diaboliser, je sais que c'est pas ce que vous faites habituellement, mais sans diaboliser les GAFA. Je pense qu'il y a quelque chose là, parce que souvent quand on dit il faut les taxer, on entend derrière il faudrait les démanteler, les détruire, s'y opposer, etc. Je sais bien que c'est pas les
scores, ce que je dis. Hein.
Non, mais c'est intéressant de poser ce débat-là aussi de cette manière-là. Les taxer et bien taxer l'économie numérique en général, et pas simplement l'économie américaine et les GAFA, oui. Mais ensuite, de nos côtés, expliquer aussi ce qui s'est passé là sur les GAFA, qui souvent aussi, d'ailleurs, aident l'économie numérique de nos startups en France, sincèrement, le développement de nos start-up aussi en Europe est aussi beaucoup lié.
C'est pour ça qu'il faut repenser la fiscalité d'une manière générale et pas commencer à faire de la fiscalité d'exception parce que tout d'un coup, on est dans un débat public en ce moment qui est quand même très clairement anti-GAFA et de protectionnisme et de réaction vis-à-vis des Américains. Je vous redonne un autre.
Mais on peut pas dire à l'inverse. Alors, il faut pas faire une taxation anti-GAFA et dire il y a 200 entreprises européennes qui vont être touchées et c'est pas bien.
Non, mais d'abord, il y en a beaucoup plus que ça. Il faut juste se dire, hier, l'économie, c'était des gros actifs et beaucoup de salariés. Ça, c'est l'ancien modèle. Le nouveau modèle, c'est très peu d'actifs et très peu de salariés. Comment on repense la fiscalité en Europe pour s'adapter à cette nouvelle donne économique?
Alors, sur les GAFA,
pas juste comment on va créer une taxe numérique, parce que on réfléchit pas systématiquement en créant des taxes. Enfin, si, en France, oui, mais...
Non, mais sur les GAFA, je suis d'accord sur le fait qu'il y a peu de gens qui travaillent pour rapporter beaucoup d'argent, mais pensez à quelque chose peut-être que vous voyez pas, parce que vous êtes peut-être dans un grand monde du numérique. Moi, je suis dans les TPE et PEP numérique, sur l'économie traditionnelle qui est en train de se numériser, et qui, pour le coup, elle crée des emplois. Et je trouve ça très intéressant, notamment sur la collecte de données, parce qu'on voit que ces entreprises-là très traditionnelles sont en train de marcher un peu sur Google et le reste en disant, mais en fait, moi, j'ai plein de données. Moi, je suis banquier. Moi, je creuse des tunnels. Les donc, j'analyse la terre, l'assurance, etc. Ça. Vinci montre ça. Donc, il y a peut-être une revanche de l'économie traditionnelle qui va montrer que finalement, il n'y a pas d'économie numérique, mais que des économies traditionnelles qui se numérisent. Et que c'est peut-être comme ça qu'on va changer.
Alors, pour revenir à cette proposition, juste un peu sur le plan technique, elle va s'appliquer donc à des entreprises qui font plus de 750 millions d'euros de revenus.
Cette taxe monde et concerne... 50 millions en Europe.
Voilà, 50 millions en Europe. Par ailleurs, ou alors, parce qu'il y a plusieurs critères, elles dépasseraient les 100 000 utilisateurs, ou encore, elles ont plus de 3 000 contrats commerciaux pour des services numériques. Pourquoi est-ce qu'on a fait quelque chose de si particulier? C'est pour essayer de les avoir toutes et en même temps que personne n'échappe? Comment vous expliquez cette proposition, puisqu'on est encore de l'ordre de la proposition présentée par Pierre Moscovici et qui est si complexe finalement?
Bon, alors d'abord, juste pardon, je reviens à ce que j'ai dit, je peux pas laisser dire que je suis dans la grande économie numérique, j'ai passé ma vie à travailler dans des startups.
Bon, allez, avançons.
Non, Dailymotion, Sociala, je reviens parce que c'est un point important du débat. L'entreprise dont je parlais tout à l'heure, 85 millions d'euros de chiffre d'affaires la première année, c'est avec moins de 50 salariés. Donc c'est ça aussi l'économie numérique. Non, mais là, on voit bien que, en fait, on tourne autour d'un sujet. Mais c'est le même sujet avec les fake news, en fait. On ne comprend pas très bien le modèle. Donc, on tourne autour toujours des mêmes acteurs et on se dit, à la fois, on ne comprend pas très bien comment fonctionne la publicité.
On va quand même réguler.
Et on va réguler, mais on ne sait pas très bien comment. Et à la fois, c'est la publicité qui rapporte de l'argent, donc on va taper la publicité. Et comme la publicité, elle est nourrie par de la data, elle marche avec de la data.
On va aussi punir les data.
Globalement, on aura trouvé le périmètre, quoi. Oui, sauf que, je le redis, par exemple, une entreprise comme Criteo, évidemment, elle va se faire taper immédiatement.
Française.
À partir du moment où on va mettre en place ce système, ouais. Bah oui, bien sûr. En l'occurrence, je le répète, on a un des écosystèmes les plus dynamiques d'Europe sur la publicité.
Est-ce que 3% c'est si catastrophique que ça?
Oui, alors c'est
pourquoi?
Très catastrophique.
Excusez-moi, on fait comme si c'était.
Parce qu'il n'y a pas de bénéfice, vous voulez dire.
De 70%
oui,
et qu'on était
si,
sous.
Parce que les GAFA, ils font entre 25 et jusqu'à 40% d'EBITDA, sauf qu'une start-up française, elle va faire entre 5 à 10% de profit. Si vous taxez 3% du chiffre d'affaires, vous divisez par deux le profit de l'entreprise à la fin. Vous voyez les effets de bord qu'il peut y avoir sur... voilà. Alors, ça veut dire que les investisseurs vont plus investir de la même manière. Ça veut dire que les sorties se feront plus de la même manière. Enfin oui, ça a un impact énorme. Il y a plus d'entreprises qui font 10% de profit que des entreprises qui font 25 ou 40%.
Jean-François Césarini.
La question que vous posiez, M. Martel, c'était de dire pourquoi est-ce qu'on a à la fois le chiffre d'affaires,
le nombre d'utilisateurs...
Et le nombre de contrats.
Et le nombre de contrats.
Parce que ce qui n'est pas la même chose qu'effectivement les critères pour savoir... où on va toucher, où on va prendre, mais savoir qui on va prendre, c'est pas, ce qui est pas la même chose.
Ouais.
Et en fait, sur ces trois critères-là, c'est plutôt essayer, à mon avis, c'est une expérimentation pour voir comment la présence numérique. Enfin, en gros, elles sont où les traces de la présence numérique, quoi? Ils sont où les pas dans la neige, quoi? Invisibles, quoi. Est-ce que c'est le nombre d'utilisateurs? Est-ce que c'est le nombre de contrats? Est-ce que c'est le chiffre?
Ou est-ce que c'est comme dans Tintin? C'est parce qu'on a tourné soi-même les Dupont et les Dupont dans le Sahara et on finit par se retrouver soi-même dans les...
Grosse métaphore, ce Martin, très bien.
Pour terminer,
Juste, oubliez pas un truc, hein. Ça veut dire que on n'est pas exempt de l'impôt sur les sociétés à la fin, hein. Ça vient se cumuler.
C'est avant, oui.
Donc, on va payer les 3%, on va payer la taxe sur les sociétés et à la fin,
bon.
L'économie
Alors,
numérique.
Ce qui est bien, c'est que la Commission admis que tout ça était une solution temporaire. À plus long terme, elle envisage d'autres réformes. Comment est-ce qu'on peut faire de telles annonces si même la Commission européenne, finalement, doute de son efficacité, Jean-François Césarini?
C'est pas douter de son efficacité, on le disait tout à l'heure. Enfin, on est là à un tournant de l'histoire de l'humanité qu'on n'a pas vécu beaucoup, je veux dire, sur une révolution industrielle qui est profonde et qui impacte aujourd'hui tous les métiers. Et qui impacte aussi le métier politique, c'est se dire comment on fait aujourd'hui pour légiférer à l'époque de l'intelligence artificielle, de la blockchain, etc. etc. Et donc, l'idée, c'est de se dire, oui, c'est temporaire parce que je suis en train d'expérimenter en le faisant si ça marche et si ça marche pas.
Juste un point.
Pour conclure.
N'oubliez pas un truc, c'est qu'aujourd'hui, les petits pays dont on parlait tout à l'heure, ils vont accepter cette taxe bricolée parce que ça les arrange pour la raison que je rappelais tout à l'heure. Et après, on ne pourra plus jamais revenir sur le point de l'harmonisation fiscale en Europe parce qu'ils auront dit on a pris votre premier truc, on ne prendra pas le deuxième.
Merci infiniment à tous les deux. Jean-François Césariné, député de La République En Marche, député d'Avignon. Merci à Séverin Naudet, ancien conseiller numérique à Matignon et conseiller en innovation au cabinet de conseil Tilder. La semaine prochaine, nous continuerons et nous parlerons de la presse catholique et puis nous aurons également un débat et le temps de vous dire juste avant de terminer cette émission si vous ne savez pas quoi faire cette nuit, si vous avez des insomnies par exemple, vous pouvez réécouter en podcast la série qui a été consacrée à Rimbaud cette semaine par Adèle Van Rett. C'était dans les chemins de la philosophie toute cette semaine et c'était épatant à podcaster sans modération. Rimbaud, philosophe. Merci à tous, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.